Paso doble.
Paso doble.
Mardi, expo.
Bonjour Emma Lavigne.
Bonjour.
Vous êtes directrice du centre Pompidou Metz, mais pour cette exposition Jardin infini, de Giverny à l'Amazonie, on n'est pas seulement à l'intérieur du musée, on est partout, on est dans tous les jardins de la ville.
Complètement, nous avons souhaité sur ce terreau extrêmement fertile de la ville de Metz, avec de nombreux jardins remarquables, imaginer cette exposition qui se déploie déjà sur 2200 m² d'espace d'exposition et qui aussi va essaimer dans différents jardins de la ville pour véritablement montrer comment le jardin continue à être véritablement un sujet d'exploration et de métamorphose pour de nombreux artistes.
Alors, les artistes sont exposés, bien sûr, donc on peut voir leur toile, on peut voir leur vision à eux du jardin ou de ce que représentait pour eux le jardin, leur amour aussi de la botanique. Mais il y a d'autres artistes qu'on ne considère pas comme artistes qui font partie de ce dispositif, ce sont les jardiniers eux-mêmes.
Les jardiniers ont été extrêmement précieux pour cette exposition. Il faut savoir que dans l'exposition, nous avons aussi des artistes qui ont été jardiniers eux-mêmes, ou en tout cas qui le sont devenus, comme par exemple Dubuffet, qui a aussi créé son propre jardin, qui a été le laboratoire à partir duquel, dès le milieu des années 50, il va inventer de nouvelles œuvres, donc vraiment un lieu d'inspiration extrêmement fort. Et puis, certains jardiniers nous ont donc aidés à accueillir du vivant dans l'exposition. L'exposition est en principe le lieu où on exclut le vivant, et là, nous avons aussi bien des nymphéas dans un aquarium de Pierre Huyghe, une pièce merveilleuse de Hans Hacke. Ce sont de simples pousses de haricots qui s'enroulent autour de câbles dans l'espace d'exposition, ou encore une île recouverte de rhododendrons d'un Simon Starling. Donc plusieurs œuvres qui accueillent véritablement le vivant, et les jardiniers doivent s'en occuper pendant toute la durée de l'exposition.
Comment a été conçue cette exposition? Si on partait du choix des artistes exposés.
Alors le choix des artistes est véritablement parti d'une sensibilité très contemporaine finalement d'artistes de la scène actuelle. Certains artistes avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, comme par exemple, je citais Pierre Huyghe qui avait fait ce jardin tout à fait incroyable lors de la précédente Documenta de Kassel, où l'œuvre d'art tout à coup devenait une sculpture recouverte d'un essaim d'abeilles parcouru par un chien à la patte rose. Donc on comprenait à quel point l'idée même d'œuvre d'art se déployait. S'ouvrait une autre artiste, Dominique Gonzalez-Förster, dont j'avais aussi réalisé la rétrospective au Centre Pompidou à Paris, n'a de cesse de créer des jardins. Et je m'interrogeais véritablement sur cette fascination pour les artistes contemporains. C'est un petit peu comme si finalement, si on leur posait la question « Préférez-vous faire une exposition dans un musée ou créer un jardin ?» On connaît la réponse, c'est faire un jardin. Pourquoi tout à coup, dans le champ de l'art contemporain, il y a cette sensibilité pour ces processus de vie, de vitalisme, de métamorphose des formes? Et c'est ce qui a véritablement guidé ce travail de recherche pour comprendre comment cette sensibilité au jardin, issue en tout cas dans cette exposition d'une sensibilité plus liée au maniérisme, à des courants un petit peu à rebours de la raison, réapparaissait dans certains moments. Mouvements comme le surréalisme jusqu'à l'art contemporain.
Et donc, vous avez choisi une palette très très large pour cette exposition Jardin infini.
En effet, l'exposition vient puiser ses racines dans la fin du 19e siècle, et certaines personnalités aussi tout à fait importantes pour notre territoire, notamment Émile Gallet et toute cette naissance de l'école de Nancy, donc à proximité de Metz, qui a essayé véritablement de traduire les formes de la nature dans ces fameuses verreries. Donc on a vraiment un ensemble assez extraordinaire de vases de Gallet que l'on vient mettre en correspondance avec les films, par exemple, du réalisateur expérimental Stan Brakhage. Donc c'est une exposition qui est comme un parcours à travers des saisons, des parcours de germination. On commence avec
l'hiver. À travers les saisons, mais aussi à travers le globe, hein, puisqu'on arrive jusqu'à l'Amazonie.
Tout à fait. on part de l'idée d'un jardin noir, d'un jardin de terre, de pierre, un jardin primordial. On va jusqu'à des processus de vitalisme et de printemps. Et en effet, l'idée était de véritablement jeter une sorte de pavé, si je puis dire, ou une corde, comme Peter Hutchinson qui crée ses jardins en lançant des cordes dans la terre, un petit peu une corde contre l'orthogonalité du jardin à la française, et montrer à quel point le jardin était un miroir, comme le disait Foucault, la plus petite partie du monde et en même temps sa totalité, et que finalement notre conception du jardin, qui a été nourrie évidemment de toute cette tradition essentielle du jardin à la française, on doit la reconsidérer, on doit reconsidérer véritablement la bordure qui clôt le jardin, pour comprendre aussi que d'autres jardins comme l'Amazonie est un jardin qui a été éminemment cultivé par les Indiens unikuni de façon extrêmement raffinée, et que ce jardin qui nous semble être une immensité, finalement est un territoire, évidemment, comme on le sait, qui diminue terriblement avec la déforestation, et continue à être un lieu d'inspiration très très fort pour certains artistes qui sont en majesté dans l'exposition, et notamment Ernesto Netto, qui devient vraiment un des musts de l'exposition, avec son jardin fleur sous lequel les gens peuvent véritablement s'allonger et donc s'imaginer finalement dans ce jardin infini qu'est l'Amazonie.
Alors Emma Lavigne, vous êtes directrice du Centre Pompidou Metz, et vous nous parlez de cette exposition qui va aller jusqu'au 28 août. Est-ce que ça rentre dans une idée un peu plus globale, parce qu'on n'a jamais autant rendu hommage à la botanique et au jardin que depuis ces quelques années. Alors là, cette année, que ce soit à Paris, à Metz, même à l'Institut du Monde Arabe, qui rend hommage aux jardins andalous, c'est-à-dire les jardins du passé, tout est très présent. Alors, est-ce que c'est une envie de s'inscrire dans ce retour à la nature, ce retour à la terre? Est-ce que c'est pour fêter les 150 ans du jardin botanique de votre ville? Pourquoi tout d'un coup, et d'ailleurs je serai le dernier à me plaindre, mais pourquoi tout d'un coup cet intérêt pour les jardins?
Je pense que cet intérêt pour les jardins est né bien avant, dans la sensibilité contemporaine, et notamment je pense à une manifestation qui va ouvrir dans quelques mois, Sculpture Project à Münster, qui a été vraiment aussi un moment très important. Donc c'est une manifestation consacrée à l'art contemporain qui accueille justement des œuvres d'extérieur, et il y avait eu notamment en 1997, un projet des artistes Fischli and Weiss. On a des œuvres dans l'exposition de ce duo d'artistes. Et déjà, c'était l'idée, plutôt que de faire une œuvre, c'était l'idée de faire un jardin potager. Mario Merz, qui est exposé au Centre Pompidou Metz également, avec une table qui est comme une table d'offrande, avec des fruits et légumes de saison, était concerné véritablement par cette question du vivant. Donc il y a ce questionnement chez les artistes. Mais progressivement, c'est intéressant de voir que finalement, le musée, les centres d'art reflètent des enjeux extrêmement contemporains. Quand on voit par exemple la Coulée Verte dans Paris, quand on voit la Promenade Verte également à New York, la Green Line. J'étais à Sao Paulo il y a quelque temps, il y a de grands programmes pour que toutes ces tours d'immeubles grises deviennent des lieux d'accueil de jardins suspendus. Donc on est véritablement en effet dans une prise de conscience extrêmement fort que finalement cultiver notre jardin, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et je pense que ces nombreuses expositions donc qui traitent de sujets différents, avec à chaque fois des angles d'approche différents, comme l'Institut du Monde Arabe, le Grand Palais actuellement, le Victorian Albert Museum aussi, ou dans la Royal Academy, il y a eu un projet il n'y a pas longtemps, montrent que finalement notre rapport à la nature, on a eu au Centre Pompidou Metz l'exposition Sublime, dont vous aviez parlé dans votre émission, qui était ce rapport de fascination et d'effroi de l'homme face à une nature qui parfois le dépasse. Là, c'est un petit peu une sorte de réponse. On peut cultiver chacun notre façon.
Diriez-vous réhabilitation, réhabiliter le jardin, réhabiliter la nature?
Réhabiliter une nature que l'on peut aussi maîtriser, que l'on peut faire fructifier, que l'on peut fertiliser sur un coin de balcon, sur un petit coin de terre. Donc il y a véritablement véritablement notre capacité à devenir des jardiniers. Et dans l'exposition, on a, à côté de certains grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, on a aussi une artiste, Catherine Miller, qui par exemple a fait des bombes seeds que les gens pourront prendre à la fin de l'exposition. Et ce sont des petites boules de terre avec des graines pour véritablement pouvoir avoir une sorte de jardin instantané. Il va suffire de lancer cette boule de terre pour qu'un jardin puisse germer. Donc il y a vraiment cette idée de replacer l'homme au cœur des enjeux écologiques, philosophiques et esthétiques autour de cette question du jardin.
Et il y aura même une anthologie de textes avec de la pensée, de la poésie, de la fiction autour des jardins. Alors, vous parlez du jardin en tant qu'objet, j'allais dire, physique, de notre rapport à la terre, mais il y a aussi dans cette exposition le jardin infini, le jardin comme métaphore de ce qu'est notre vie. On en parle dans un instant avec vous, Emma Lavigne.
Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre.
Jardin d'hiver par Henri Salvador, c'est pour vous, Emma Lavigne, pour dire qu'il y a autre chose dans cette exposition, effectivement. Hein. Il y a aussi le sens de la vie qui passe par le jardin et par l'exposition Jardin Infini.
Complètement. Le jardin d'hiver, c'est aussi la serre tropicale, le lieu où on acclimate le vivant. Et c'est d'ailleurs une des sections de notre exposition où on comprend que ce lieu d'acclimatation du vivant a suscité parfois des réactions très fortes. Le jardin, la plante deviennent des formes d'altérité finalement de l'être humain. On a par exemple cette œuvre de Simon Starling qui est un îlot flottant avec des rhododendrons qui poussent dans l'exposition. Et simplement une anecdote, mais ces rhododendrons ont été importés donc en Angleterre au XVIIIe siècle pour orner les jardins anglais. C'était véritablement une plante qui était devenue à la mode, et cette plante s'est mise à proliférer au-delà des espérances, vu que ça a été tout à coup une plante qu'il a fallu éradiquer, qu'on a dû véritablement arracher, éjecter. Donc on comprend qu'il y a sous cette question de la botanique, des enjeux de pouvoir, notamment un jardin extrêmement célèbre comme Giverny, on a tendance à oublier que finalement, pour Monet, ça a été un combat de créer véritablement son jardin. L'acclimatation de certaines plantes qui provenaient du Japon suscitait les craintes des fermiers qui pensaient que ces plantes exotiques allaient empoisonner le bétail qui allait donc paître autour du jardin. Donc il y a véritablement ce ressort de l'acclimatation, de la botanique, du contrôle du vivant, et cette exposition explore aussi véritablement ces ressorts. Il y a par exemple, l'exposition a été paysagée réellement par un artiste merveilleux qui s'appelle Daniel Stigman Mangrané, qui est installé au Brésil et qui s'est inspiré des plans de Burl Marx que l'on a notamment dans l'exposition. Donc ce grand paysagiste brésilien qui finalement a découvert les plantes brésiliennes en visitant le jardin botanique à Berlin, où tout à coup il s'est dit « mais c'est incroyable, je n'ai jamais vu ces plantes brésiliennes dans mon propre pays ». Ces plantes avaient été éradiquées pour laisser la place à des jardins à la française, des jardins à l'anglaise. Et donc son projet a été véritablement de créer des jardins à la brésilienne en réacclimatant des plantes qui avaient finalement disparu des contrées brésiliennes. Donc il y a véritablement ces ressorts qui nous ont évidemment passionnés.
Eh bien, Lavigne, on a parlé des artistes, on a parlé aussi des jardiniers. Est-ce qu'il y a d'autres vues, d'autres acteurs qui ont participé à cette exposition Jardin Infini? Je pense notamment aux scientifiques.
Alors, nous avons échangé avec plusieurs personnes, donc le directeur Frédéric Potz, le directeur du jardin botanique de Nancy, qui est un grand spécialiste également des jardins, qui est venu proposer un parcours dans l'exposition avec des cartels entre guillemets scientifiques, parce qu'ils sont juste absolument passionnants à lire, où il vient véritablement nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'humus, qu'est-ce que c'est que les phénomènes de pollinisation, de métamorphose des plantes, d'hybridation, donc qui vient aussi traverser l'exposition, par exemple, avec ce regard très précis, très scientifique sur des œuvres d'art. Donc ça enrichit de façon indéniable le parcours. Et cet œil d'expert vient aussi montrer que certains des artistes qui sont dans l'exposition ont été à un temps eux-mêmes des scientifiques ou des gens férus de recherche dans le champ de la botanique. On a par exemple un artiste qui avait bénéficié d'une magnifique exposition à la Maison Rouge il y a quelque temps à Paris, donc Eugène Gabrychewski, qui était un artiste avant de sombrer dans la schizophrénie et d'être interné en 1929, qui a véritablement conduit des études dans le champ de l'hérédité, et notamment les plantes, les insectes ont été vraiment des sujets d'analyse très très précise pour cet homme qui était un scientifique, et tout à coup, rattrapé par la folie, ses recherches scientifiques très précises ont généré une forme de bestiaire tout à fait imaginaire, de formes hybrides. Donc c'est un exemple, mais nous avons aussi dans l'exposition, par exemple, des images d'animation incroyables de Fred Percy Smith, qui était un chercheur, et dans les années 20-30, il a essayé d'expliquer ces métamorphoses du vivant avec des films qui ont véritablement une dimension esthétique très très forte. On voit véritablement ces plantes se transformer, il y a un côté presque d'hallucination optique, et on voit bien que la question de la science et de l'esthétique, de la recherche plastique sont sans cesse hybridées dans l'exposition, et que même des scientifiques se laissent progressivement rattrapés par ce qui fascine les artistes, c'est-à-dire ces processus de métamorphose infinie.
C'est à Metz et c'est jusqu'au 28 août, Jardin Infini de Giverny à l'Amazonie. Emma Lavigne, ça fait maintenant 3 ans que vous êtes...
Pas tout à fait, ouais. Presque 2 ans et demi.
Presque 2 ans et demi que vous êtes à la tête de Pompidou-Metz, alors, premier bilan peut-être,
parce que... C'est un lieu tout à fait extraordinaire où on peut véritablement inventer une programmation, nos expositions, donc... C'est quelque chose d'extrêmement précieux d'avoir la possibilité, tout en s'ancrant dans un territoire qui a sa spécificité, d'imaginer des projets au cœur de l'Europe finalement, parce qu'on a quand même beaucoup de
visiteurs. Et le parcours de l'exposition, il dépasse bien sûr le lieu. Hein, c'est vraiment...
L'exposition déborde, je dirais, le centre d'art. Il accueille les visiteurs avec une pièce de Loïs Weinberger dès le parvis du centre Pompidou. Pompidou-Metz. Il va aussi être à l'initiative aussi d'une nouvelle célébration fin mai, le 30 mai, qui s'appelle L'Art dans les Jardins, qui est une manifestation messine qui existe déjà et qui va venir aussi célébrer les 150 ans de ce merveilleux jardin botanique de Metz.
Merci beaucoup d'être passé ce matin, Emma
Lavigne. Merci beaucoup.
Vous avez jusqu'au 28 août, je me répète, mais j'espère que vous allez avoir une excellente occasion pour aller à Metz ou pour passer par cette ville et voir cette exposition Jardin Infini, pour avoir une idée de toutes ces œuvres d'art présentées ce matin et brillamment d'ailleurs par Emma Lavigne. En quelques clics, vous avez les photos les plus remarquables de cette exposition à la page de Pasodob sur franceculture.fr. Bonne matinée, dans un instant, Émilie Chaudet.